Nous abordons dans le livre du prophète Ésaïe une section qu'on a parfois appelée l'Apocalypse d'Ésaïe, en référence aux événements qui sont décrits sur la fin des temps, une vision sur la fin des temps qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse et qui, vous allez voir, il y a des versets que vous retrouvez dans le livre de l'Apocalypse qui sont des textes, des citations du prophète Ésaïe. Encore une fois, le livre de l'Apocalypse, il est placé à la fin de notre Bible, pour une bonne raison, c'est qu'en fait il fait référence, historiquement c'est un des derniers livres écrits, mais c'est aussi un des livres qui fait référence à toute la parole de Dieu. Et sans une bonne connaissance acquise par soi-même ou transmise par d'autres ou relatée par d'autres, on peut faire beaucoup d'erreurs en interprétant le livre de l'Apocalypse. On a vu jusqu'à présent que le prophète Ésaïe voulait mettre en garde le peuple de Dieu qui était divisé en deux. Il y avait le royaume du nord, capitale Samarie, appelé Israël aussi, et puis le royaume du sud, capitale Jérusalem, qu'on appelle souvent Juda. Et en fait, après la mort du roi Salomon, le royaume s'est divisé, ce qui est toujours une tragique. La division, c'est quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Nous prions, nous remercions le Seigneur de nous préserver de toute division. Satan aime bien diviser pour régner. Et c'est vrai que des fois, on voit l'état de l'Église actuelle et on se dit, il a bien avancé son projet. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'être unifié ou de prétendre qu'on est uni sous prétexte qu'on se dit chrétien, mais il y a des essentiels de la foi, ces essentiels qu'on trouve dans la parole de Dieu et pas ailleurs. On n'a pas besoin de nouveaux prophètes, on n'a pas besoin de nouveaux livres, tout est là. Méfiez-vous de ceux qui veulent ajouter ou retrancher à la parole. L'Apocalypse dit, parlant du livre lui-même, mais aussi de toute la Bible, il y a une malédiction pour ceux qui ajoutent ou ceux qui retranchent. Dieu nous a donné tout le conseil de sa parole et c'est ce que nous essayons d'étudier semaine après semaine, mois après mois, année après année. Si vous partez, si vous n'êtes pas là, vous pouvez toujours continuer à écouter les messages que Craig met en ligne. Et dans 25 ans, on recommencera toute la Bible. J'en sais rien combien de temps. On prend notre temps. Mais revenons à Ésaïe 24. On arrive après ces malédictions sur des nations païennes, sur les alliances que les deux royaumes essayent de conclure avec ces nations païennes, que Dieu va utiliser les nations païennes pour juger son peuple. Dieu va juger son peuple, pas parce qu'il veut punir, mais parce qu'il veut restaurer. Et ça, c'est une des caractéristiques de la discipline de Dieu. C'est la discipline d'un père qui nous aime et qui veut nous ramener à lui. Comme un papa corrige ses enfants s'il les aime, Dieu nous corrige, Dieu nous reprend. Et puis là, après avoir parlé de nations, de différentes contrées, de Tyr, de Sidon, de Moab, de Babylone, de Damas, de l'Éthiopie, etc., on passe à une échelle plus grande, à la fin des temps. Et il est question du jugement que Dieu va exercer. Et ce jugement, Jésus lui-même en a parlé. J'aimerais qu'on regarde ensemble Matthieu 24, ce qu'on appelle des fois le discours sur la fin des temps ou le discours du mont des Oliviers, parce que c'est là que Jésus l'a confié à ses disciples. Ses disciples lui demandaient, « Dis-nous quand cela arrivera, la fin du monde, la fin des temps. Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, verset 4 du chapitre 24 de Matthieu, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, en disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils suivront beaucoup de gens. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et puis il continue en donnant des signes. Et puis finalement, verset 21, il dit « Il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais plus. » Si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés, etc. La période de la grande tribulation. La Bible nous dit que celui qui veut vivre pieusement en Christ, en Dieu, qui veut suivre Dieu, sera persécuté, qu'il y aura des tribulations pour ceux qui vivent en vrai chrétien. Dans le sens de ces tribulations, c'est les tribulations du monde, de Satan, des fois de notre chair qui est sensible à ces tentations du monde et de Satan, que nous avons des tribulations. Mais là, la période de la grande tribulation, ce sera un jugement qui viendra de Dieu, non pas de Satan, qui viendra sur le monde et les élus, ceux qui appartiennent à Dieu, seront épargnés. Ça, c'est une des caractéristiques de notre doctrine, c'est de croire que l'Église ne passera pas par la grande tribulation. On n'a pas le temps ce matin de faire une étude sur ce sujet, mais c'est notre point de vue, notre optique, c'est que les élus dont il est question ici, ce sont les élus de Dieu, c'est le peuple juif, pas l'Église. Et le peuple de Juif, c'est le peuple de Dieu par Dieu, ça sera l'Église et les Juifs sauvés, les Juifs qu'on appelle des fois aujourd'hui les Juifs messianiques. Et pendant cette période de la grande tribulation, il va y avoir beaucoup de Juifs qui vont enfin voir que Jésus est le Messie qu'ils attendent. Cette période de la grande tribulation, c'est ce que Ésaïe voit dans ce chapitre 24. On va lire ensemble. On va voir l'étendue de son jugement. Verset 24, « Voici que l'Éternel dévaste la terre et la dépeuple, il en bouleverse la face, en disperse ses habitants. Il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. » La terre est complètement dévastée, totalement pillée, car l'Éternel a prononcé cette parole. Une vision terrible de cette grande tribulation où la terre est bouleversée, les habitants sont dispersés. On voit que ce jugement, il touche tout le monde. Lorsqu'il est question du maître comme du serviteur, la maîtresse comme de la servante, etc., si vous regardez bien, ça couvre tout le monde. Tout le monde va être soumis à ce jugement s'ils ne sont pas venus à Jésus déjà. La terre est complètement dévastée, totalement pillée. Lorsqu'il est dit au début dans la Genèse qu'après la création du monde, il y avait un moment où la terre était informe et vide, c'est le mot tohu, bohu, ou tohu, va bohu, qui veut dire vide et dévasté, informe, totalement pillé. Lisons la suite. La raison de ce jugement, c'est que de la, on va le voir, la terre est dans le deuil, épuisée. Le monde épuisé dépérit. Ils dépérissent, les gens haut placés de la terre. La terre a été profanée par ses habitants, car ils enfreignaient les lois, altéraient les prescriptions, ils rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore la terre et ses habitants emportent la culpabilité. C'est pourquoi les habitants de la terre sont consumés et il ne reste qu'un petit nombre d'hommes. La terre est épuisée, la terre est affligée. Si nous regardons dans l'Apocalypse, vous pouvez garder un doigt dans Ésaïe et regardez l'Apocalypse, le dernier livre de votre Bible, dernier livre de la Bible. C'est l'épisode des sept trompettes. Et si on lit le verset 7 du chapitre 8, voici ce qui est dit. Le premier, c'est les anges qui sonnent des trompettes. Le premier sonna de la trompette. Il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut consumé, le tiers des arbres fut consumé et toute herbe verte fut consumée. Le deuxième ange sonna de la trompette, une sorte de grande montagne embrasée fut jetée dans la terre, le tiers de la terre de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt et le tiers des navires fut détruit. Le troisième ange sonna de la trompette et tomba du ciel une grande étoile qui brûlait comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent de ces eaux devenues amères. C'est ce que signifie le mot absinthe. Le quatrième ange sonna de la trompette. Le tiers du soleil fut frappé ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles afin que le tiers en soit obscurci et que le jour perde un tiers de sa clarté et la nuit de même. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel et disait d'une voix forte « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette que les trois anges vont faire retentir. » On voit vraiment que la terre dépérit et il est expliqué qu'en fait la terre a été profanée, non respectée par ses habitants. Pourquoi ? Parce qu'ils enfreignaient les lois. Ils ne respectaient pas les commandements de Dieu. Ils altéraient les prescriptions, c'est-à-dire qu'ils changeaient les prescriptions. Le mot prescription, c'est le mot en hébreu Torah. Le mot qui veut dire la loi de Dieu, qui veut aussi dire la parole de Dieu. Et ils rompaient l'alliance éternelle. Alors peut-être vous vous dites, ça c'est pour la fin des temps, c'est loin tout ça. En fait, vous avez vu quand on a lu le livre de Matthieu et ce que disait Jésus à ses disciples sur la fin des temps, savoir comment on s'en rapprochait, il parlait notamment de tremblements de terre. Tremblements de terre, et vous vous dites peut-être, moi je me suis dit, en fait, les tremblements de terre, il y en a toujours eu. Voltaire parlait du grand tremblement de terre de Lisbonne, pour ceux qui se souviennent des écrits de Voltaire, où il se moquait, où il mettait en cause l'amour de Dieu pour les hommes. Et puis, dans l'Antiquité, on sait que des îles ont disparu, Santorin, il y a eu des choses qui ont été bouleversées par des grands tremblements de terre. On se dit en fait, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, il n'y a pas à s'affoler. En fait, vous savez qu'on mesure les tremblements de terre sur l'échelle de Richter, ou Richter. Alors, ce n'est pas une petite échelle qu'on utilise comme on met pour prédire la météo. Il y avait la tradition, on dit qu'on met une échelle dans un bocal de grenouille et suivant où monte la grenouille, on peut faire des prédictions sur le temps. Non, c'est une échelle qui mesure la violence du tremblement de terre. On parle, des fois, on parle dans les médias des tremblements de terre. Dès qu'ils commencent à frapper, atteindre l'échelle 5 de l'échelle de Richter, qui était un savant américain prénommé Charles. Et en fait, le second degré, l'échelle 6, ça va pas être, on se dit, off, 5 ou 6, c'est un peu comme la température, il fait 28, 6 ou 29, c'est pas bien grave. Non, à chaque fois qu'on change de chiffre, on multiplie par 10 la puissance. Donc un tremblement de terre d'une échelle de 6 est 10 fois plus puissant qu'un tremblement de terre d'une échelle de 5. Si on arrive à l'échelle de 8, c'est les grands tremblements de terre qui détruisent des villes. C'est 10 000 fois plus puissant qu'un tremblement de terre sur l'échelle de Richter de 5. Et puis, les grosses catastrophes, c'est lorsqu'on arrive à 10 000 fois plus puissant à l'échelle de 9. En général, ceux-là, ils laissent la catastrophe derrière eux. Ce qui est intéressant, c'est de voir combien de tremblements de terre importants, on va dire d'une échelle de 7 ou de 7,2, sont arrivés dans les dernières décades. On a commencé à mesurer ces tremblements de terre à partir de l'année 1900, et entre 1900 et 1945, il y a eu 3 grands tremblements de terre de plus de 7,2. Dans les années 50, il y en a eu 9. Dans les années 60, il y en a eu 13. Peut-être certains se souviennent du tremblement de terre d'Agadir, du tremblement de terre de Skoplié, pour les plus anciens. En 70, il y en a eu 56. Dans les années 80, il y en a eu 74. Dans les années 90, il n'y en a pas eu 3, il n'y en a pas eu 9, il n'y en a pas eu 56, il y en a eu 170. Et donc, si on regarde, on voit que les tremblements de terre augmentent de grande intensité, augmentent exponentiellement, ce qui nous indique qu'en fait, ces choses dont parle Jésus ne sont pas loin. Quand on voit la condition du spirituel, quand on voit les guerres, les conflits, la misère, sachons que Jésus frappe, c'est pas loin. Ce passage nous montre aussi que c'est Dieu qui contrôle sa création. Il y a une fausse doctrine, une fausse religion qu'on appelle le Nouvel Âge, qui n'a rien de nouveau. C'est l'ancien paganisme qui mélange Dieu et sa création. Dieu est en toi, Dieu est dans les galets, Dieu est dans la mer, Dieu est dans le ciel. Non, Dieu est distinct de sa création. C'est lui qui l'a fait et c'est lui qui la contrôle comme bon lui semble. Et vous savez, on a parlé à l'époque du mouvement hippie, il y avait Mother Earth, la terre qui est notre mère à tous, la terre nourricière. Ça, c'est du baratin, c'est des mensonges de l'ennemi. Qui ne veut pas que vous réalisiez qu'il y a un Dieu, il y a votre Père dans les cieux. Il n'y a pas la mère terre, elle n'est pas là-haut. Désolé pour les écolos. La meilleure façon de protéger la planète, c'est pas de prendre une carte avec Greenpeace. La meilleure façon de protéger la planète, c'est pas de faire du tri quand vous faites votre recyclage. Ces choses ne sont pas mauvaises en soi. Je ne veux pas dire qu'il faut salir la planète, ne pas faire des efforts, Mais la façon qui protégerait la planète, ça serait que tous les hommes entendent l'évangile et répondent à l'évangile. Parce que lorsque l'on suit les préceptes de l'évangile, on respecte la nature, on respecte les autres. On ne jette pas la poubelle dans la rue. On prend soin de ce que Dieu nous a confié. On est des bons gestionnaires de sa création. Dieu nous l'a confié pour la cultiver, pas pour la violer, pour l'exploiter. L'exploitation de la terre, la pollution, ça c'est parce que l'homme vit dans le péché. Et la prochaine fois que quelqu'un frappe à votre porte pour vous parler de prendre une carte de Greenpeace, dites-leur que mieux que la paix verte, il y a la paix de Dieu à recevoir. Et souvent ces gens sont très zélés, et ça va, ce qui est drôle, c'est qu'autant ils veulent, j'ai toujours été surpris que les Verts soient un mouvement politique. Alors c'est vrai qu'il y a des principes de vie qui pourraient être influencés par la politique, mais on peut être vert à droite, à gauche, au milieu, au centre et sur les côtés et en dehors de ça. Respecter la nature, ça n'a rien à voir avec la politique, mais là, il est dit que les hommes ont enfreint les lois de Dieu. Ils ont violé la Torah. Ils ont violé la loi de Dieu en ne respectant pas la moralité que Dieu a définie dans sa parole. Les 10 commandements, les gens n'essayent même pas de les vivre. On sait qu'on ne peut pas y arriver et qu'ils sont là pour nous montrer qu'on a besoin de Dieu. Mais les gens s'en moquent. La parole de Dieu aussi a été violée. Chaque fois que quelqu'un ajoute ou retranche à la parole de Dieu, chaque fois qu'il y a des nouvelles pratiques, chaque fois qu'il y a dans les églises un nouveau vent qui vient d'on ne sait pas où, qui vous dit « ça y est, maintenant ça c'est la nouveauté ». C'est ça dont nous avons besoin. Non, tout ce dont nous avons besoin, c'est de vivre ce que Dieu nous a déjà confié. Les autres, ce sont des sirènes, ce sont des choses qui ont un succès pendant un temps, qui sont peut-être pas mauvaises en elles, mais méfiez-vous de ceux qui vous disent « on a trouvé le nouveau commandement, on a trouvé la nouvelle façon d'adorer Dieu ». On a trouvé qu'en aboyant bêtement comme des animaux, en riant sans pouvoir se retenir, Dieu est béni. Ça, c'est du baratin qui vient de Satan. Revenez à la parole. Si ce n'est pas dans la Bible, demandez aux gens où est-ce qu'ils trouvent leur raison d'expliquer, de proposer certaines choses. Si on vous dit qu'il faut tomber à la renverse pour être rempli de l'esprit, montrez-leur que dans la Bible, la seule fois où les gens tombent à la renverse, c'est lorsque Dieu les maudit. C'est lorsque Jésus dit « arrière Satan ». C'est lorsque Jésus, qui est venu, qui est pris par les soldats tombent à la renverse. Ne vous laissez pas. C'est pas parce que c'est à la télévision qu'il y a des millions de gens qui payent pour voir ça, que c'est la vérité. Et vous savez de ce dont je parle. Les hommes ont rompu l'alliance éternelle. De quelle alliance s'agit-il? Là, il y a débat parce qu'il y a plusieurs alliances qui ont été établies. L'alliance avec Abraham, l'alliance avec Noah, l'alliance, la nouvelle alliance de Jésus dont il est question dans le Nouveau Testament. Et ça, c'est peut-être plus particulièrement l'alliance de Noé. Dans la Genèse, à partir du chapitre 8, on peut regarder brièvement. On va juste regarder un petit peu chapitre 9. L'alliance avec Noé. Dieu bénit Noé ainsi que ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. » Et il donne des préceptes. « Tout ce qui rampe et qui vit vous servira de nourriture. Je vous le donne comme je l'ai fait des végétaux. » Être végétarien, ça peut être peut-être bon pour votre santé, jusqu'à un point, mais il n'y a aucun péché à manger des animaux. Vous ne mangerez pas de chair avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang, mais aussi je réclamerai votre sang, je le réclamerai à tout animal. Là, c'est des préceptes. Celui qui verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé. C'est l'ancienne alliance avec Noé. Et au verset 16, il dit « L'arc-en-ciel sera dans la nuée, je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. » Et on voit qu'en fait, cette alliance, elle parlait de la relation de l'homme avec la terre, avec le reste de la création divine. Et c'est pour ça que certains pensent que c'est peut-être à cette alliance qu'il est fait référence, mais toujours est-il que c'est cette alliance que les hommes n'ont pas respectée. Il ne reste qu'un petit nombre d'hommes. Dans l'Apocalypse, on voit que pendant la Grande Tribulation, un tiers de la population est détruite par le jugement de Dieu. Un tiers, ça veut dire des milliards de gens, au moins 2 milliards si on en restait à la population actuelle de 6 ou plus. Donc des choses cataclysmiques. On voit aussi comment il y a un changement d'attitude. Verset 7, le vin doux est en deuil. La vigne dépérit. Tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent. L'allégresse des tambourins a cessé. Le bruit des amusements a pris fin. L'allégresse de la cithare a cessé. On ne boit plus de vin en chantant. Les liqueurs sont amères aux buveurs. La ville est désertée et démolie. Toutes les maisons sont fermées. On n'y entre plus. On crie dans les rues parce que le vin manque. Toute joie s'est assombrie. L'allégresse est bannie du pays. La dévastation est restée dans la ville et les portes abattues sont en ruine. Car il y en est dans le pays, au milieu des peuples, comme lors du gaulage de l'olivier, comme lors du grappillage, quand la vendange est finie. La fausse joie disparaît. C'est caractéristique, c'est vrai, de notre société. C'est qu'on a l'impression que pour s'amuser, il faut qu'il y ait de l'alcool. Si on n'a pas l'apport de l'alcool pour oublier en fait la tristesse profonde qui nous entoure, de la situation dans laquelle nous sommes, on ne peut pas tressaillir d'allégresse, on ne peut pas être joyeux. Encore une fois, je crois que Jésus a montré qu'il buvait du vin à la fête. Il ne s'agit pas d'être légaliste, d'interdire la consommation de vin. Mais l'alcool, comme substitut de joie profonde, c'est un leurre. Le réveil est toujours dur. La gueule de bois, c'est pas drôle. On m'a dit. Dieu merci, j'ai jamais eu la gueule de bois. J'ai bu quand j'étais plus jeune, un peu trop, mais il m'a préservé. J'avais mes copains qui se prenaient une bonne cuite, complètement naze, jusqu'à en dégueuler partout. Ça, c'est pas de la joie. C'est de l'oubli, c'est de la drogue. C'est oublier qu'on est loin de Dieu si on ne vient pas à lui. Et toutes les maisons sont fermées, la population a disparu, les liqueurs sont amères aux buveurs, toute joie s'est assombrie. Il ne reste plus rien. Il y a une image des champs, comme lorsqu'on ramasse les olives sur un olivier. Ça se passe un peu encore dans notre région. Vous savez qu'ils mettent un filet autour de l'olivier et qu'à la fin, le vent les fait tomber, ils les ramassent, mais à la fin, ils vont frapper les branches, ils vont faire tomber les dernières olives. Il reste une ou deux olives. De la même façon, lorsqu'on fait les vendanges, on ne laisse pas de grappes, ou alors il y en a quelques-unes de ci, de là, et c'est ainsi que le pays va rester après la grande tribulation. Ce sera quelque chose de, d'absolument dévasté. Tout est en ruine. Mais, verset 14, le mais du jugement de Dieu. Dieu est un Dieu qui nous aime, qui aime sa création, qui aime les hommes, quels qu'ils soient. Il les juge jusqu'au point où il sait qu'il voudrait qu'ils reviennent à lui, mais il ne les force pas. Et ici, on voit qu'il y en a qui élèvent leur voix pour acclamer Dieu. Je pense qu'il s'agit là des saints qui sont qui ont été sauvés, qui ne passent pas par la grande tribulation. C'est les saints qui ont été enlevés, et aussi ceux qui sont sauvés pendant la grande tribulation, qui poussent des cris de joie en l'odeur de l'Éternel, qui glorifient l'Éternel. Ceux-ci élèvent leur voix, ils poussent des acclamations de l'ouest, ils poussent des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière, le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, dans les îles de la mer. De l'extrémité de la terre, nous entendons des chants, honneur au juste, au juste. Mais moi je dis, je suis perdu, malheur à toi. Des traîtres trahissent, des trahisons, des traîtres trahissent. Il y a des gens qui ne viennent pas à Dieu, qui trahissent, et eux sont perdus, eux vont subir cette grande tribulation. Et ce jugement de Dieu, les versets suivants nous montrent qu'on ne peut pas y échapper. Le jugement des hommes est imparfait. Lorsqu'un homme est condamné, il a beaucoup de recours. Il peut espérer peut-être faire appel, il peut espérer un changement de gouvernement ou un changement de président qui va gracier ceux qui auront été condamnés. Il peut peut-être espérer s'échapper, il peut peut-être espérer ne pas être puni pour ce qu'il a fait. La plupart des crimes sont impunis en France. On parle beaucoup de des jugements, mais pour un, je n'ai pas la statistique, mais pour un crime ou délit puni ou jugé, il y en a des dizaines d'autres qui ne sont même pas rapportés, qui ne sont pas jugés. La frayeur, la fosse et le filet, ça ce sont des termes de chasse. On fait peur aux animaux pour les précipiter dans une fosse, dans un filet. Et là, il dit, la frayeur, la fosse, le filet sont sur toi, habitants de la terre. Celui qui fuit au fracas de la frayeur tombe dans la fosse. Celui qui remonte de la fosse est pris au filet. C'est-à-dire, vous pouvez espérer échapper à une des méthodes, mais vous allez tomber dans l'autre. Car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre se fissure, la terre craque, la terre est secouée, les tremblements de terre. La terre titube comme titube l'ivrogne, elle vacille comme une cabane. Son crime pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. On pense que Dieu peut faire vaciller la terre. Certains pensent que même il y a eu des moments dans l'histoire où peut-être la terre a vacillé, le moment où, par exemple, où le jugement à Gibeon, lorsque le jour s'est arrêté. Peut-être ça a été un changement de pôle, le pôle nord devenant le pôle sud, retournant dans et la Terre se mettant à tourner dans l'autre sens. Il y a des livres très intéressants qui regardent ces choses. La Terre, l'année terrestre était de 360 jours, elle est maintenant de 365 jours. Il y a des satellites de Mars qui n'ont été découverts qu'au XVIIIe siècle par les instruments d'optique perfectionnés. Et pourtant, dans l'Antiquité, on parlait de ces satellites de Mars. Voltaire, avant que ces satellites n'aient été découverts par la science moderne, parlait des satellites de Mars. Quelque chose s'est passé qui est peut-être ancré dans les traditions orales, dans l'histoire de la Terre. Mais la terre peut tituber. Encore une fois, Dieu peut secouer les choses comme on n'a pas idée. En ce jour-là, verset 21, on va terminer par ça, l'Éternel châtiera là-haut l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. On les ramassera comme une masse de détenus dans une fosse. Ils seront emprisonnés dans une prison. Et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. La lune sera confuse et le soleil aura honte. Car l'Éternel des armées règne sur la montagne de Sion et à Jérusalem. La gloire sera en face de ses anciens. Ce jugement de Dieu va toucher tout le monde. L'armée d'en haut, ça fait référence aux anges rebelles. Et ça aussi, dans l'Apocalypse, on voit que Satan et ses anges, le tiers des anges qui s'est rebellé et qui a suivi Satan, va être détruit. Satan va se retrouver dans l'étang de feu qui a été créé pour lui et tous ceux qui l'auront suivi. Là, il est question d'un emprisonnement, et quand on regarde dans l'Apocalypse, on voit qu'il est référence ici, il fait référence ici, le prophète Ésaïe, à ce qu'il est appelé par ailleurs le millénium, ou le règne de Jésus, de 1000 ans sur la terre, après la bataille d'Armageddon, après, à la fin de la grande tribulation, l'Éternel va régner. Toutes vos soifs de justice. On a l'impression aujourd'hui, et c'est malheureusement vrai, que les dictateurs ont le pouvoir, les dictateurs règnent, leurs crimes sont impunis pour la plupart. Il y a une impunité des méchants qui révolte les pauvres, qui révolte les faibles. Et l'Éternel va régner. C'est des termes poétiques qui parlent de la confusion de la lune et du soleil, de voir ces gens qui vont être châtiés, de voir qu'ils ont éclairé des choses terribles. Il y aura comme une honte, mais c'est la gloire qui va resplendir, la gloire de l'Éternel, sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Cette vision d'Ésaïe, c'est une vision qui a touché d'autres des prophètes, et notamment la prophétie de l'Apocalypse. On voit qu'il y a une unité lorsqu'on étudie l'ensemble des passages, des épisodes prophétiques, et on peut se faire une idée très précise de ce qui va se passer. On peut se faire une idée que le temps approche. Et Dieu vous appelle à venir à lui. On verra plus loin qu'une des tactiques des pompiers, c'est de, lorsqu'il y a un feu qui frappe en ce moment, il y a des grands incendies en Californie, peut-être ils se demandent si ce n'est pas la fin du monde là-bas. Une des façons de se protéger d'un incendie, d'un jugement à venir, c'est de faire brûler le terrain sous contrôle. Parce que une fois que le grand incendie arrive, il ne trouve plus de carburant. Il s'arrête, il épargne la zone qui a déjà reçu le premier incendie. Et ce à quoi Dieu nous appelle, c'est face à ce jugement qui arrive, qui est proche, c'est de nous réfugier là où le jugement est déjà passé. Jésus nous appelle, Dieu nous appelle à venir à la croix, là où le jugement est déjà tombé. Parce que lorsque l'autre jugement, le jugement de la fin des temps arrivera, vous aurez déjà été jugé. Le jugement est tombé une fois. C'était le signe du sang sur les poteaux des portes lors du fléau de la mort des premiers-nés, avant que Moïse n'emmène le peuple en terre promise. Il est dit, le sang sur les linteaux de vos portes sera un signe que le jugement est déjà passé. La croix est un signe, si elle est Vous êtes venu à la croix si vous avez accepté le Seigneur, comme votre sauveur. La croix montre que le jugement est déjà tombé et Dieu ne juge pas deux fois. Dieu juge une seule fois parce que son jugement est parfait. Et le jugement qu'il a accompli à la croix, ce n'est pas un jugement pour faire semblant. Jésus a pris le jugement qui nous revenait. Prions. Seigneur, merci pour ce passage qui nous montre le sérieux, l'étendue, l'importance, la gravité de ton jugement. Le fait que les hommes ne se s'élèveront pas en fanfaron comme on les entend trop souvent aujourd'hui pour se moquer de toi et se moquer de ton jugement qui tarde à venir. Mais là, il n'y aura plus de joie pour ceux qui ne seront pas venus à toi. Le jugement les détruira, Seigneur. Donc, notre prière, Seigneur, c'est que pendant qu'il est encore temps, et nous ne savons pas combien de temps il reste, Seigneur. Les statistiques sur les tremblements de terre sont une bonne indication que ce jugement arrive, peut-être plus vite que nous-mêmes qui le souhaitons, ne pouvons l'imaginer. Ce jugement arrive et il est encore temps. Comme pour l'arche de Noé, il était encore temps de rentrer dans l'arche, d'être épargné de ce cataclysme final, du déluge, si on rentrait à temps dans l'arche. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ne seraient pas encore rentrés dans ton arche, pour ceux qui ne seraient pas encore venus à la croix, qui n'auraient pas reçu le pardon que tu nous donnes en Jésus-Christ, parce qu'il a pris la punition que nous méritions. Je prie, Seigneur, que tu touches leur cœur, que tu leur parles, que tu leur dises qu'aujourd'hui, c'est encore le jour du salut. Et si c'est votre cas, si vous sentez que, oui, c'est vrai, vous avez toujours vécu sans vous préoccuper de Dieu, de ce qu'il voulait pour vous, sans jamais le remercier pour toutes les choses qu'il a faites pour vous. Peut-être dites-vous, jamais il ne m'a rien fait, mais pourtant, vous respirez, pourtant vous êtes là, pourtant vous avez des joies, pourtant vous avez des aspirations, parce qu'il vous a créé, il vous a donné l'air pour respirer, il vous a donné la pensée, il vous a donné un corps, vous pouvez bouger, vous pouvez avoir des relations avec les autres. Tout ça, ce sont des bienfaits de Dieu qu'il donne à ceux qu'il aime comme à ceux qui le rejettent. Il frappe à la porte et il dit « Venez, il y a un jugement qui vient. Et ce jugement, vous le méritez si vous n'êtes pas capable de vivre les 10 commandements. Si une seule fois vous n'avez pas aimé Dieu de tout votre cœur, si une seule fois vous avez eu des choses qui ont pris la première place, alors vous méritez le châtiment. Et nous méritons tous cette punition de Dieu. Nous, le salaire du péché, c'est la mort. Nous sommes tous des pécheurs. Nous ne pouvons pas recevoir l'amour de Christ, son pardon, la croix, tant que nous avons les mains pleines de nos bonnes œuvres, de notre insouciance, de notre ignorance. Vous pouvez prier cette prière avec moi, si c'est votre cas. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai besoin de ton pardon. Je te demande pardon pour mes péchés, tout ce qui a été contraire à ta volonté, tout ce que j'ai fait ou ne pas fait, tout ce que j'ai fait en acte ou par pensée qui ne t'a pas plu, Seigneur. Je t'en demande pardon. Je te demande de me pardonner. Je te remercie, Jésus, parce que tu es mort sur la croix. Le jugement que nous méritons tous est tombé sur toi. Mais seulement si je viens à toi, serai-je au bénéfice de ton pardon. Et c'est ce que je veux faire ce matin. Je viens à toi, je te demande d'entrer dans ma vie, Seigneur Jésus. Je réalise que je ne peux rien faire pour mériter ce pardon. Je ne peux rien faire pour avoir la vie éternelle. Je la reçois comme un cadeau de ta part. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Si c'est votre souhait, sachez que vous pouvez prier cette prière à Jésus maintenant dans votre cœur et Jésus vous entend. Il va vous répondre à votre prière. C'est la première prière qu'on doit faire. Jésus, pardonne mes péchés. Je crois que tu es vivant, tu es ressuscité d'entre les morts, que tu es mort à ma place. Je veux changer de voie, faire demi-tour, aller vers toi. Si c'est votre cas, pendant que nous sommes tous dans le recueillement, je vous demanderai de lever la main pour que je puisse prier pour vous et vous parler davantage. Sachez que c'est une prière essentielle. C'est la seule prière digne d'être priée en premier. Vous pouvez prier cette prière, mais ne tardez pas. Le jugement pourrait tomber avant que vous n'ayez le temps de faire cette prière. Seigneur, je te remercie de ton amour. Je te remercie de ce que tu appelles les âmes à toi. Tu as tout fait et tu nous laisses le choix, Seigneur. Puissions-nous être intelligents, ne pas être comme l'insensé qui dit dans son cœur « Dieu n'existe pas ». Sois béni, Seigneur, pour ton œuvre parmi nous.